Psychologue ou psychothérapeute, c'est un métier que des élèves de 3e du collège Samuel Paty de Conflans-Sainte-Honorine voulaient découvrir. C'est Odile Rubly, psychothérapeute à Herblay-sur-Seine, qui est venue à leur rencontre.
Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici.
Bien, bonjour, merci d'être venu vous présenter votre métier au collège Samuel Paty dans la classe des 3e 4. Et voilà, merci. Merci
beaucoup. C'est avec grand plaisir, très très grand plaisir. Parce que je suis très passionnée par mon métier, il faut savoir ça. Alors je ne suis pas française, donc peut-être que vous allez entendre une prononciation qui n'est pas d'ici. Je viens de l'Amérique du Sud. Je viens de l'Uruguay et c'est là que j'ai commencé à étudier mon actuelle carrière professionnelle.
D'où vous est venue cette idée de carrière? Est-ce un rêve d'enfant et quelles sont vos motivations?
Alors moi, déjà jeune, très jeune, j'étais celle à qui on racontait les problèmes. Ça, c'est incroyable, et je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Donc j'ai été d'abord professeure d'espagnol. Et ensuite, j'ai fait une reconversion parce que, oui, ma vraie vocation, j'ai adoré être professeur d'espagnol, mais bon, pendant 20 ans, et après, je me suis reconvertie. Et c'est vrai que j'étais celle à qui, même les adultes, on venait me parler, me raconter, on voulait mon point de vue, un petit conseil. C'était assez incroyable. Et oui, et peu à peu, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup. Écoutez, j'aime l'humain, ça m'intéresse, les problèmes, ça m'intéresse de trouver des solutions.
Êtes-vous indépendante ou travaillez-vous en milieu hospitalier?
Je suis indépendante, je ne travaille pas en milieu hospitalier, je ne suis pas psychologue clinicienne, je suis psychothérapeute, gestalt-thérapeute. Et la gestalt est une forme de psychothérapie, il y en a plein. Mais la gestalt en est une.
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier?
Alors ce métier, je me suis installée en 2010.
Quel est votre cursus scolaire?
Alors moi j'ai fait ma scolarité en Uruguay et donc j'ai été professeure d'espagnol. Et ensuite ici, j'ai fait deux écoles différentes, l'EPG, École Parisienne de Gestalt Thérapie, et l'IFGT, qui est l'Institut français de Gestalt Thérapie, toujours la Gestalt Thérapie, et je me suis spécialisée donc pour enfants, ados, couples et familles, dans le deuxième cursus à l'IFGT. Donc je n'ai pas fait la faculté, l'université, c'est pourquoi je ne suis pas psychologue clinicienne.
Quels sont vos horaires de travail?
Ça dépend du jour, mais je propose une amplitude qui peut bénéficier mes patients. Donc parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois tard le soir aussi. Mais je reste souple en fait.
Quelle est la fourchette des revenus des psychologues?
Fourchette des revenus? Moi je ne sais pas trop te dire pour les autres psychologues. Moi, je sais que moi, par mois, comme c'est en libéral, c'est pas toujours exactement le même chiffre, mais on peut avoir, 4 000, 5 000, sauf que la moitié part à l'État. Ça, il faut le savoir.
Quelles sont les différentes spécialisations des psychologues, les liens avec les psychiatres, et que faut-il faire pour être clinicienne ou clinicien?
D'accord. Alors, psychologue, il y en a beaucoup de spécialités possibles. Psychologie sociale, psychologie de l'enfant, psychologie maintenant, neuropsychologie. Il y en a plein de spécialités possibles pour les enfants, pour les couples, pour les familles. Il y a vraiment beaucoup de spécialités possibles. La différence avec la psychiatrie, c'est ça la question, c'était que les psychiatres sont des médecins. Donc, c'est des médecins qui, en plus, se spécialisent en psychiatrie. Donc, eux, ils peuvent faire des ordonnances. Et après, l'autre question, c'était...
Faire pour être clinicien ou clinicien.
Ça, c'est la fac. Ça, c'est la fac ou une école de psychologie qui soit... C'est la ARS qui gère ça. Et si on ne fait pas ce cursus-là, on n'est pas psychologue clinicien.
Quelles qualités faut-il avoir ?
Eh bien, il faut aimer les gens. Ça, c'est fondamental. Se sentir bien avec les personnes. Aimer, écouter. Être naturellement curieux de ce qui se passe dans la vie des autres. C'est des qualités fondamentales. Avoir aussi une capacité d'analyse. On nous fait beaucoup travailler sur nous-mêmes en formation. Donc, il y a des personnes qui passent beaucoup de temps dans ce qu'on appelle le service, enfin le... comment ça s'appelle ? Le stade... un stade où on ne peut pas commencer la formation si les professeurs n'ont pas, ne sont pas sûrs que le travail personnel a été fait. C'est-à-dire que si on a ses propres traumas, ses propres difficultés, des relations conflictuelles, tout ça, il faut le travailler d'abord sur soi avant d'aller pouvoir aller aider les autres.
Quels sont les types de clients et de problèmes que vous avez soignés ?
C'est très divers et varié, très divers et varié. Après moi, le 99% de mes patients, on est dans la névrose, on n'est pas dans la psychose. J'ai quelques patients psychotiques qui ont un traitement, donc ils peuvent venir en psychothérapie, mais sinon, c'est des patients qui traversent une dépression, qui ont des angoisses, qui ne comprennent pas quelque chose, ne comprennent pas quelque chose de leur propre vie, qui ne se sentent pas bien hein, dans leur vie ou dans quelque chose de particulier dans leur vie. Donc, en vrai, n'importe qui peut venir faire une psychothérapie. Hein.
C'est quoi la différence névrose et...
Alors, la neurose, enfin, on est tous des névrosés, parce qu'on a tous nos points aveugles. On ne se voit pas tout le temps à soi-même tel qu'on est. Mais la psychose, c'est autre chose. La psychose, c'est on perd le contact avec la réalité. Parfois, voilà, on n'est pas vraiment ici et maintenant, on est dans une sorte de délire, par exemple, je sais pas, il y a plein de possibilités de ne pas être en contact avec la réalité. Donc ces patients-là ont besoin d'un traitement. Donc c'est pourquoi ils doivent aller chez le psychiatre et après ils peuvent faire une psychothérapie. Mais sinon, on ne peut pas les traiter en libéral. Ils vont à l'hôpital.
Est-ce que c'est un métier difficile et si oui, qu'est-ce qui est le plus difficile ?
Alors, perso, non. Pour moi, non. Pour moi, enfin, c'est ma passion aussi. Donc, moi, je... Alors, il y a des cas qui sont plus compliqués que d'autres. Mais je pense que partout, pareil. Hein. Enfin, il y a des situations plus difficiles que d'autres dans nos métiers. Donc, je ne pense pas qu'il est particulièrement difficile. Par contre, je sais que tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est une vraie vocation. Ce n'est même pas la peine d'essayer de le faire si on n'aime pas écouter l'autre, si on n'a pas cette patience et cet intérêt-là.
Y a-t-il des inconvénients ? Si oui, lesquels ?
Les inconvénients... c'est quoi les inconvénients ? Sur la profession elle-même, franchement, enfin, je ne vois pas trop quels sont les inconvénients. Faut vraiment, vraiment avoir ce feu intérieur. Mais après, les portes s'ouvrent. Enfin, il n'y a pas vraiment d'inconvénient.
Quel est votre meilleur souvenir et le plus mauvais ?
Alors, mais le meilleur, enfin, les meilleurs, c'est quand je vois évoluer mes patients. C'est tellement gratifiant. Les gens me disent, mais comment tu fais ? Mais comment je fais ? Regarde, regarde comment il évolue, regarde ce qu'il a, ou elle, il vient de loin, cette personne vient de loin, regarde comment elle avance. C'est méga gratifiant comme métier. Après, mes pires souvenirs, c'est lorsque j'ai commis des erreurs. Et que là, après coup, je me suis dit, comment tu t'es trompée là avec ce patient? Il ne va plus revenir, je ne peux plus l'aider. Ah, dans ce que tu me demandais, ce qui était le plus difficile, si. Il y a quelque chose qui est difficile pour moi, c'est que parfois, il peut avoir un patient qui m'inquiète, vraiment. Et là, j'arrive pas à me le sortir de la tête, en fait. Je suis dans ma vie, avec mes enfants, avec ma famille, mais j'ai quelque part ce patient qui m'inquiète. Ça n'arrive pas super souvent, mais ça arrive parfois. Et là, c'est difficile. Et l'autre question ?
Le meilleur souvenir est le plus mauvais.
Et le plus mauvais, par exemple, il me vient cette patiente. C'est mon premier cabinet, c'est à mes débuts. C'était en 2010 ou 2011, je crois que 2010. Moi, je ne sentais pas qu'elle avançait beaucoup. Et j'ai commis l'erreur de lui dire que je pensais que, on n'avançait pas beaucoup ensemble. Comment elle se sentait et elle, je ne l'ai pas exprimé dans la bonne manière. Il ne faut pas dire je pense que. On n'est pas là pour penser soi-même. J'aurais pu dire. Est-ce que vous vous sentez bien avec notre travail? Est-ce que vous vous sentez avancé dans ce qu'on fait? Et la personne, librement, aurait pu me dire oui, non. Mais dès lors où je lui dis qu'on n'avançait pas beaucoup, c'est comme si je la jugeais. Et elle, dans sa problématique, elle se sentait un peu rejetée, déjà. Donc j'ai ajouté une couche. Elle n'est plus revenue. Et je me suis sentie super mal. Voilà un très mauvais souvenir.
On vous expose différents problèmes. Comment trouvez-vous les questions adaptées au problème et à la personne?
Mais pour ça, on a une longue formation, très longue formation pour appréhender les différentes situations. Et du coup, on a des protocoles. Donc, on sait par où aller, quoi demander, surtout une fois qu'on a un petit peu d'expérience. Ça vient plus facilement.
Comment savez-vous qu'un suivi est terminé?
Moi, je peux avoir une idée, parce que je vois la personne. On va imaginer que les trois dernières séances se passaient pas autour d'un problème spécifique, mais plutôt des situations... plus légère, la personne, elle commence à parler, elle va bien, elle va mieux, elle ne trouve plus tellement de difficultés. Là, on commence à espacer les séances. La personne qui venait toutes les semaines, on va lui proposer de venir tous les 15 jours. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous parle? Et la personne, elle peut être super contente ou elle peut dire non, moi je préfère continuer à venir. Je dis ok. Il y a toujours de la place pour vous ici. Moi, ce que je remarque, c'est que ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui fait que vous voulez venir encore une fois par semaine? Voilà, donc ça se discute, ça se malaxe. Ce n'est pas une décision qui est la mienne, c'est une décision conjointe. On décide ensemble.
Quels sont les débouchés possibles avec les compétences que vous avez acquises?
Mes débouchés à moi... Elles sont assez limitées, en fait, parce que il n'y a que le libéral pour moi. Moi, on ne va pas me prendre dans un hôpital, on ne va pas me prendre dans une institution. J'ai même voulu aider pendant le Covid. Il y avait beaucoup d'angoisse et j'ai voulu aider dans un protocole gouvernemental. Ils n'ont pas voulu de moi parce que je n'étais pas psychologue clinicienne. Et du coup, j'ai pas pu aider. Donc, mes débouchés à moi, c'est que le libéral. Donc, mais c'était un vrai choix. Bon, c'est ce que je voulais. Après, il faut savoir, voilà, qu'il y a plutôt ça que ça. Ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, c'est vrai qu'on se ferme d'autres portes.
et peut-être vers d'autres types de métiers ou en entreprise.
En tant que psychothérapeute?
Oui.
Ça peut. Moi, j'ai pas essayé de le faire. J'ai pas essayé de le faire, mais en formation, on nous disait très clairement que les institutions allaient privilégier les psychologues. Les psychologues, pour voir la différence entre psychologue et psychothérapeute, le psychologue, il peut donner des diagnostics. Il fait passer des tests. Et on peut avoir un diagnostic. Moi, je travaille l'accompagnement thérapeutique. Avec ou sans diagnostic, les patients arrivent avec un diagnostic, très bien, ou sans diagnostic, c'est pas grave, on peut les accompagner dans leur évolution thérapeutique. Et c'est ça la différence. Après, un psychologue peut être psychothérapeute, peut être les deux.
Peut-on être psychologue si on est sensible ?
Il faut être sensible pour être psychologue. Parce que l'empathie est fondamentale. On travaille avec nous. Enfin, quand le patient parle, moi je l'écoute avec mes oreilles, mais je l'écoute aussi avec mon cerveau émotionnel. Enfin, est-ce qu'il me touche ? Je l'observe, on l'observe de manière holistique. Holistique, ça veut dire dans sa totalité, son langage corporel, comment il parle, ce qu'il dit, comment ça m'affecte. Si on n'est pas sensible, on n'est pas fait pour ce métier. Et la formation t'apprend à... Je ne vais jamais oublier comment ils nous disaient ça. Enfin, l'objectif, c'est plonger dans la piscine avec le patient. Lui, il en ressort tout mouillé. Et nous, il faut être capable d'en ressortir sec pour pouvoir être solide pour lui. Mais on va dans sa piscine, on va dans ses eaux. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Oui. Et dans la formation, on nous apprend.
Y a-t-il des rendez-vous d'urgence ?
Oui, il y a des rendez-vous d'urgence, tout à fait. Oui. Des rendez-vous d'urgence qui, après, quand on les a et qu'on arrive à les caler sur l'agenda, très vite. Après, il y a des vrais rendez-vous d'urgence et il y en a qui sont perçus comme étant urgents, mais ne le sont pas vraiment. Mais bon, la personne l'a perçu comme étant très urgent et elle se sentait vraiment en une grande difficulté. Que ce soit une mère pour son enfant, ou que ce soit quelqu'un pour soi-même. Moi, j'ai toujours de disponibles des heures et des créneaux urgents.
Et comment ça se juge, une urgence ?
Moi, l'urgence, c'est par rapport au niveau d'angoisse de la personne. C'est ça qui fait que ça va être urgent et elle n'en peut plus, la personne. Elle est vraiment, vraiment à bout. Ou il y a quand même un seuil de tolérance, un seuil où elle peut agir. Et c'est pas ce que j'appelle l'urgence, mais je ne dis jamais au patient « Ah, c'était pas vraiment urgent », parce qu'on ne sait pas comment lui, il l'a ressenti. Après, s'il appelle une deuxième fois en rendez-vous urgent, alors que j'ai constaté que le premier rendez-vous n'était pas vraiment urgent pour moi, je peux lui proposer 10 minutes au téléphone, je peux lui proposer, et ça marche parfois, au lieu de faire une séance et l'ajouter dans mon agenda, on peut s'appeler. Et en général, ça apaise la personne d'avoir son psy au téléphone. C'est une bonne chose.
Un psychologue peut-il se traiter lui-même s'il a un problème ?
Non. Un psychologue est comme une autre personne qui parfois a besoin d'aller chez un autre psychologue. Et on a ce qui s'appelle la supervision. C'est un psychologue qui en plus est superviseur et on arrive chez lui avec des cas un peu, enfin on ne sait pas comment les prendre ou quelque chose qui a pu me déstabiliser, une problématique qui fait résonance et qui, je sais, et de ce fait je ne sais pas comment la gérer. Donc le superviseur, il va être là pour voir avec nous, est-ce que on peut envisager de travailler comme ci, de travailler comme ça. Donc c'est très rassurant pour les psychologues.
Un psychologue, il doit être suivi par un autre psychologue, non ?
Oui, oui, oui. On a nos thérapies à nous, en fait. On n'est pas obligé d'avoir un suivi permanent, mais si on considère qu'on a des choses à travailler, oui, on prend rendez-vous avec un psy. C'est très normal, c'est très courant. Ce qui est obligatoire, c'est la supervision. Ça, oui, ne pas rester tout seul avec ses patients. C'est-à-dire pouvoir en discuter, avoir un espace où on peut discuter d'un cas, de comment je me suis sentie, est-ce que je me suis retrouvée perdue, je ne savais pas quoi lui proposer, ou que ça m'affecte trop, donc qu'elle m'aide à désensibiliser, parce que sinon je vais devoir orienter ce patient à quelqu'un d'autre. Ça peut se faire aussi, si je suis troublée par une problématique en particulier, je peux tout à fait dériver le patient avec son accord, voir quelqu'un d'autre. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais ce qui m'est arrivé, c'est de venir en supervision avec un cas que je ne sais pas, qui est résistant. Et on a fait ci, on a fait ça, voilà, on a travaillé là, et le patient, il n'avance pas. Il n'avance pas, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Et là, voilà.
Votre carrière a-t-elle un impact sur votre vie personnelle ?
Franchement, hormis ces cas qui peuvent m'inquiéter, même chez moi parfois, ou même dans mon sommeil, c'est rare quand même, mais hormis ça, non. Non, j'arrive à faire la part des choses. J'arrive chez moi, j'ai pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin de... Je suis là, je suis présente, moment présent. Non.
Comment vous vous sentez quand il y a un cas qui avance pas ? Est-ce que vous ressentez de la culpabilité ou un truc comme ça ?
Au début, je sentais beaucoup de culpabilité. Après, ça s'est un peu changé en frustration. Mais on nous apprend, on le travaille en formation, on n'est pas des sauveurs. Il ne faut pas se considérer comme un sauveur. Ce qu'on peut faire reste quand même limité. Et il y a des patients qu'en une séance, ils arrivent à faire tomber beaucoup de masques sociaux. Donc on arrive vraiment à travailler. Et il y en a d'autres où on retrouve énormément de résistance. Donc moi j'ai appris la leçon, donc je ne dis plus jamais « je ne sens pas que vous n'avancez pas ». Je dis comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez avancé, est-ce que ça va mieux, parce que c'est très subjectif.
Vos clients, c'est principalement des jeunes ou des personnes âgées ?
Alors là où je m'éclate vraiment, c'est que je passe du coq à l'âne. Je reçois un couple, après je reçois un enfant de 3 ans, après je reçois 2 ans aussi. Si, on joue avec ces enfants-là. Ils expriment leur... Enfin, ils s'expriment à travers le jeu. Donc, j'ai beaucoup de matériel, donc une maison. Donc, moi, l'adulte me dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je le reçois seul, je reçois les parents seuls. Il m'explique ce qui se passe. Après, je reçois l'enfant. S'il accepte d'être avec moi tout seul, on joue seul. S'il est un peu trop attaché à sa maman ou à son papa, on invite le papa et la maman jusqu'à ce qu'ils se sentent qu'il peut rester tout seul, que tout va bien, ils se sentent en confiance. Et à travers le jeu, ils me montrent, ils me disent qu'est-ce qui ne va pas, où ils sont bloqués, pourquoi ils sont en colère, qu'est-ce qui fait qu'ils soient tristes ou agités, ou qu'ils ne peuvent pas dormir, ou pas, quel que soit le symptôme, en fait. Pipi au lit, des enfants plus âgés, 7, 8, 9, 12. Enfin, c'est des problématiques que je retrouve, et voilà, que j'essaye d'aider. Donc, du coup, de ce fait, d'avoir une telle diversification, je ne m'ennuie jamais.
Est-ce que vous, en tant que psychologue, c'est efficace pour vous d'aller voir un psy, sachant que vous connaissez les techniques et tout.
Mais en fait, je connais les techniques, mais comme on a dit au tout début, enfin, pourquoi on est dans cette structure névrotique, hein? Parce qu'il y a toujours des points aveugles chez nous. Et donc il y a des choses, même si j'ai les techniques, j'y arrive pas à trouver une solution toute seule. Alors, on va dire, voilà, cette colère ou cette rancune vis-à-vis de quelqu'un qui perdure. J'arrive pas à m'en sortir. Je vais avoir un psy. Peut-être que je vais pas être 3 ans chez le psy. Peut-être que 6 mois va me suffire. Parce que justement, j'ai du travail fait sur moi, que c'est ponctuel, que voilà, si j'arrive à ne pas avoir trop de résistance, ça va se travailler assez vite. Mais oui, c'est utile.
Est-ce que vous prenez des stagiaires de 3e ou de 2e, par exemple ?
Alors malheureusement, en libéral, non. On ne peut pas prendre des stagiaires. Ça, c'est plutôt dans une structure. Et là, ils prennent des stagiaires, oui.
Et c'est combien de temps d'études, vous avez dit ?
Moi, j'ai fait 3 ans à l'EPG et 2 ans à l'IFGT. 5 ans. Après le bac, tout à fait, oui. Après le bac et après ma carrière de professeur d'espagnol, en fait. C'est une reconversion pour moi.
Vous pouvez redire à peu près de combien vous estimez la fréquence de patients par semaine, à peu près, par jour ?
Ça, c'est aussi... Enfin, mon baromètre, c'est toujours le niveau d'angoisse et de mal-être du patient. Si je reçois quelqu'un qui me parle de ses soucis, qui me parle de ses problèmes, il y a un problème dans toutes ses priorités, il y a un problème où il est bloqué, mais qu'il arrive à parler tranquillement, je ne vais peut-être même pas lui demander de venir la semaine suivante. On va travailler. Je vais lui demander de faire certains exercices entre 2 séances et je le verrai dans 10 jours ou 15 jours. Mais si la personne, elle est là, elle pleure, elle n'est pas bien, dans ses priorités, il y a 3 items qui ne vont pas bien, je vais lui demander de venir la semaine prochaine le plus tôt possible.
Les cas, ils se ressemblent ou pour chaque patient, ça change ?
En fait, oui, on finit par avoir des groupes de patients, on va dire, avec les mêmes problématiques, des problématiques connues, hein, comme par exemple la dépression. Oui, j'en ai plusieurs.
Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi ?
Je crois qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi, oui, pour ce métier. Oui, on est attendu un peu partout pour accompagner les personnes.
Est-ce que c'est facile de s'installer en libéral ?
Alors, au début, non. Au début, c'est pas facile parce que une fois que tu as ton diplôme, il faut que tu ailles voir. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai été voir tous les médecins de la ville et les paramédecins et tous ceux qui étaient susceptibles de recevoir des personnes à qui pourrait intéresser de faire une psychothérapie. Et donc, ce n'est pas facile de se vendre à soi-même, d'aller voir les médecins, expliquer ce que vous faites, alors que vous n'êtes même pas installé. Ou alors, vous êtes installé depuis hier, en fait. Donc, il n'y a pas une vraie expérience de pratique. Donc, non, ce n'est pas facile. Et j'avais, un patient par semaine au début. Après, un patient par jour. Et après, il y a le bouche à oreille, il y a les médecins, et il y a surtout Google et les avis de Google. C'est incroyable, mais même pour la psychothérapie, c'est les avis qui comptent en fait. Donc j'ai, on va dire, de 10 patients, il y en a 3 ou 4 qui viennent parce qu'un médecin les envoie, 2 ou 3 qui viennent par le bouche à oreille, et tout le reste, c'est Google.
Est-ce qu'en écoutant un patient, vous pouvez découvrir une maladie comme le TDAH ou la dyslexie ?
Non, on peut avoir une idée sur la question. On peut se dire, d'accord, il vous arrive ci, il vous arrive ça, et est-ce qu'il vous arrive ça ? Et donc, du coup, il répond à plusieurs questions positives. On peut se dire dans la tête que ça peut être un TDAH, mais on n'a pas le diagnostic, en fait. Donc, moi, je n'ai pas... Alors, je peux dire à la personne, est-ce que... Est-ce que ça... on a des questionnaires qu'on peut faire remplir pour voir si la plupart des questions sont positives à ce questionnaire. Et là, on peut dire, est-ce que ça vous intéresserait de faire un bilan? Et à ce moment-là, oui, on le oriente vers un psychologue clinicien pour qu'il fasse ses tests et donc avec le diagnostic correspondant. Mais oui, avoir une idée, on peut être sûr, non.
C'est quoi la différence entre votre métier et psychologue clinicien?
Alors, les psychologues cliniciens, ils ont un autre cursus. Et ils, à la base, ils passent, ils font des diagnostics, en fait. Après, s'ils ont deux casquettes et qu'ils sont aussi psychothérapeutes, ils peuvent et faire le diagnostic et faire l'accompagnement thérapeutique. Ils peuvent faire les deux. Que nous, on peut faire juste l'accompagnement thérapeutique.
Merci, madame, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et moi et les élèves de 3e 4 vous remercions d'être venus ici.
D'accord, merci, c'est super gentil. Moi aussi, je suis ravie d'avoir pu répondre. Bravo à vous. Merci au professeur aussi. Professeur, d'avoir laissé ce temps pour cet échange.
C'est une demande des élèves parce que c'est vraiment dans leur top 4 des métiers.
Ah oui? D'accord. Ah oui. Ok.